morning.
Good morning.
Good morning.
Yeah, good morning.
Whoa, good morning. And
good morning, Radio Premier.
Bonjour et bienvenue pour une nouvelle matinale sur Radio Prévert. Bonjour Stéphane.
Bonjour Manon.
Eh bien, nous allons tout de suite commencer cette belle matinale avec la météo et un flash info.
C'est l'heure de la météo en Saône-et-Loire sur Radio Prévert 105.9. Et on commence donc avec la météo de ce mercredi après-midi. Le département sera coupé en deux. À l'ouest, de nombreuses averses orageuses. À l'est, de belles éclaircies. Côté Mercure, on attend 21 à Chauffailles, 23 à Toulon-sur-Arroux, 25 à Chalon, Mâcon et Pierre-de-Bresse. Jeudi et vendredi, il faudra conserver les parapluies. Les orages seront bien installés sur le territoire. Les températures resteront toutefois agréables. Les deux jours suivants, vous profiterez d'un week-end estival avec le retour du soleil. Météo France nous prévoit une hausse du mercure jusqu'à 27, notamment ce dimanche, au meilleur de la journée à Chalon. C'était la météo sur Radio Prévert 105.9.
Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Prévert 105.9.
Et on commence ce flash avec de nouveaux soupçons dans l'affaire Nordal-Lelandais. On l'a appris ce matin, il est désormais soupçonné d'agression sexuelle sur une fillette. Selon les sources de BFM TV, il s'agirait d'une cousine âgée de 7 ans. Un acte qui pourrait s'ajouter à la liste de ses crimes qu'il a avoués, le meurtre de la petite Maëlys et celui du caporal Arthur Noyer. Une vidéo a été retrouvée sur le téléphone portable de Lelandais. Les enquêteurs poursuivent leur investigation. Dans l'actualité également, l'éruption du volcan de feu au Guatemala qui se poursuit. Deux jours après le début de l'activité volcanique, le bilan humain est lourd. Pour l'heure, on compte au moins 75 morts et près de 200 disparus. Des milliers de riverains ont été évacués dès ce mardi soir. Les recherches ont été, quant à elles, interrompues pour des raisons de sécurité. Et enfin, plus légèrement, retour en France désormais, on ouvre une page scolarité. Les trois quarts des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup ont obtenu au moins une proposition de formation. Ainsi, c'est plus de 600 000 lycéens sur les 800 000 inscrits qui ont reçu au moins une proposition pour leur poursuite d'études dans le supérieur. Par conséquent, l'objectif initial du gouvernement, qui était d'avoir 2/3 de réponses avant les épreuves du bac, est atteint. À l'instant, c'est plus de 275 000 élèves qui ont été acceptés ou qui vont accepter justement une proposition de manière définitive. Voilà, fin de ce flash. On te retrouve Manon désormais pour une page histoire dans la suite de cette matinale sur l'antenne de Radio Prévert.
C'était toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Prévert 105.9. Nom de Zeus, votre rubrique Histoire, mythes et légendes. De retour sur Radio Prévert, et surtout de retour pour une chronique histoire. Je sais que vous les aimez, dites-le. On se retrouve donc pour parler histoire, et aujourd'hui, j'ai décidé que nous parlerions du Wendigo. Oui, une légende qui nous vient d'ailleurs. Une créature légendaire du folklore amérindien. Ça claque, hein, et qui a pu se faire connaître dans nos contrées grâce aux films tout d'abord, parce que bon, on va le dire, les films ça aide vachement à propager la culture, mais également par les jeux vidéo. Alors là, je parle du célèbre Until Dawn, donc qui est un jeu vidéo d'horreur, et où dedans on doit justement affronter ces créatures qui ont d'ailleurs des apparences assez effrayantes quand même dans ce jeu. Donc là, on va revenir sur la créature en elle-même. Donc la légende a beaucoup évolué depuis son origine, mais le Wendigo reste néanmoins une créature des plus effrayantes. Bon déjà, de toute façon, quand on dit en général légende amérindienne, c'est pas le truc le plus joyeux au monde quand même, quand on y pense. De plus, cette légende s'est répandue jusqu'au grand nord du continent américain. Donc quand on parle grand nord, c'est vraiment le nord-nord quoi, Canada, tout en haut. Cette bête légendaire possède, à son actif, plusieurs noms avec différentes prononciations. Et oui, ça fait... parce que l'Amérique du Nord, ça fait quand même beaucoup de peuples, enfin, pour ces époques-là. On trouve comme prononciation et surnom principalement donc Wendigo, donc pour, vous l'auriez compris, Windigo, une petite variante, et Witico. Bon là, on dirait plutôt un nom de marque de téléphone. Hein. Mais il est surtout connu pour une chose, c'est le fait qu'il soit un esprit malfaisant, cannibale, qui, bon, cannibale et du coup aime beaucoup la chair humaine. Vous auriez compris. Question apparence, ça ressemble à quoi ? Bah, on peut dire que ça varie beaucoup, vu que chaque peuple en donne une description différente. Donc on va dire que, globalement, voilà, il est décrit comme géant, ayant parfois un corps glacial, donc de glace, il serait de plus mi-homme mi-animal, parce que sinon ce n'est pas assez suffisant, et serait d'une force surprenante en plus d'être très robuste. Pardon. En tuer n'est donc pas ce qu'il y a de plus facile, vous l'aurez bien compris. De manière générale, on peut clairement dire qu'il ne ressemble pas à un gentil petit chaton, donc. Toujours en rapport avec son apparence, mais d'un peu plus loin, je vous l'accorde, on a tendance à mettre en relation les Wendigo avec les Skinwalkers. Si je vous dis changeur de peau, peut-être que ça vous dira plus quelque chose. Des sorciers donc capables de se transformer en n'importe quelle créature du moment qu'ils ont la peau de celle-ci. Ouais, c'est, je pense que c'est assez pratique. Et parmi leur attirail, on compte des créatures bien effrayantes qui ne sont pas sans rappeler les Wendigo donc. D'ailleurs, je me demande si s'ils arrivent à avoir la peau d'un Wendigo, ils peuvent se transformer en Wendigo. Ce serait intéressant. Mais où trouve-t-on ces créatures, ma foi, très charmantes ? Eh bien, déjà en Amérique du Nord, vous vous en doutez, du coup, maintenant. Plus précisément, on pourrait voir les Wendigo dans les forêts. Ça vous donne envie de faire une petite balade ? Et surtout, durant les périodes hivernales. Voilà, donc ces créatures aiment bien le froid, quoi. La légende dit qu'un voyageur arpentait les forêts en utilisant des chemins enneigés. Au bout d'un certain temps, il se serait perdu, ce qui l'amena à manquer rapidement de vivre et fatalement à être totalement affaibli physiquement puis moralement. Au bout d'un certain temps, aéré sans trouver son chemin, le voyageur ressentit soudainement une baisse brutale de la température puis une montée violente du vent. Ces faits étaient en réalité le signe que le Wendigo était là. Le Wendigo finit par encercler le voyageur de sa présence et avec sa vitesse exceptionnelle dévora l'homme vivant, sans que celui-ci ne réussisse à le voir. Donc, toujours aussi joyeuse, ces légendes amérindiennes. Vous pouvez donc aisément comprendre pourquoi les amérindiens donc en avaient peur. Oui. Cela était en plus renforcé par plusieurs facteurs. Nos amis, donc les Algonquins, c'est surtout une certaine tribu particulière des Amérindiens, vivaient reclus dans des zones très isolées, des villes ou villages qui pouvaient être proches. Donc là, on parle colons. Hein. Quand arrivait l'hiver, ils se retrouvaient confrontés au froid. Donc avec le froid, la maladie, et avec la maladie, des pénuries de nourriture. Fait que fatalement, en hiver, on trouve moins de nourriture. Je ne sais plus parler, pardonnez-moi. Pour eux, ils représentaient des proies idéales pour ces créatures, comme tout droit sorties des flammes de l'enfer. Et en parlant de proies, d'ailleurs, parlons de leur incroyable appétit, car en plus d'être, et ma foi, très nombreux, ils sont aussi des ogres en puissance. Bah, de toute façon, une créature légendaire cannibale, fallait forcément qu'elle ait un gros appétit, de toute façon. Hein. Il est dit que leur appétit serait insatiable, en plus. En effet, car en fait, à chaque fois qu'elle dévore de la chair humaine, enfin, à chaque fois qu'ils dévorent plutôt de la chair humaine, ben, c'est simple, ils grandissent. Voilà. Et dans ce cas, fatalement, s'ils grandissent, ils vont manger de manière proportionnelle à leur taille. Et ça donne envie. Mais, comment devient-on Wendigo ? Moi, ça me semble intéressant de savoir ça. De ce que l'on sait, il existerait plusieurs façons de devenir un Wendigo. Par le biais de rêves. Oui, c'est assez simple quand même, ça vous réveille avec Wendigo et hop, vous devenez un Wendigo. Et aussi en ayant un esprit de Wendigo qui vient par lui-même, en fait, durant un de vos rêves. Car oui, en plus, ils peuvent venir littéralement vous faire chier, même durant vos rêves. Oh oui. Mais il y a également par un rituel de transformation. Oui, il y a vraiment des gens qui voulaient devenir des Wendigo, apparemment. Ou encore par le biais d'une malédiction. Donc là, vous n'avez plus qu'à espérer que votre ex ou votre belle-mère n'ait pas envie de vous jeter une de ces malédictions. Hein. Mais il y a encore d'autres moyens de le devenir, et certains événements faciliteraient les transformations, comme par exemple les famines. Car dans ce cas, certaines personnes sont prêtes à tenter le cannibalisme. Oui, fatalement, pour la survie. Or, le fait de manger de la chair humaine condamne à devenir un Wendigo. Voilà, donc, conclusion, s'il vous plaît, s'il y a de la famine, ne mangez pas vos chers cousins ou frères et sœurs, car sinon il se pourrait que vous vous transformiez en une créature, ma foi, pas très sympathique. Nous en avons terminé avec cette chronique sur les Wendigo. et j'espère que ça vous aura plu. Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié parler des Wendigo. Et toi, Stéphane, tu as bien aimé cette chronique ?
Ouais, c'était très très intéressant, comme chaque mercredi avec toi, Manon.
Et alors, tu as peur des Wendigo maintenant ?
Un petit peu quand même, on va faire un petit peu attention à nous.
On va essayer. Eh bien, nous allons maintenant attaquer une petite page musicale avec Cake by the Ocean de DNCE. J'adore les noms des groupes de musique de maintenant. Pour Hollywood, Léa Passy et New Roots de Alice Merton.
Très bon programme.
Restez avec nous. C'était Nom de Zeus sur Radio Prévert 105.9.
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9.
But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm going up on this high street, baby. Whoa. Let's lose our minds and go fucking crazy. You're moving so carefully. Let's start living dangerously. Whoa.
Talk to me, baby. I'm rolling out from here to Sweet Sweet Baby. Whoa. Let's lose our minds and go fucking crazy.
Ah, yeah, 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 yeah. Keep on hoping with me. Cake by the ocean.
Whoa, call me, baby. I'll be good and you'll be Naomi. Whoa. Let's lose our minds and go fucking crazy.
To me,
go talk to me, baby. I'm loving up from here to Sweet Sweet Baby. Whoa, let's move our minds and go fucking crazy.
Il a sûrement trop plu durant nos absences. Les I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I like standing still, but that's just a wishful plan. Ask me where I come from, I'll say a different land. But I've got memories and travel like gypsies in the night.
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9.
De retour sur Radio Prévert, 105.9, nous allons continuer cette matinale en musique. Et cette fois-ci, c'est Stéphane qui va tout vous présenter. Tu vas donc revenir sur un rappeur et chanteur qui a, on va dire, traversé quand même les générations. Et vous connaissez forcément un de ses titres. Enfin, normalement, si vous écoutez de la musique... Logiquement.
Oui, normalement. Et oui, Manon, pour te confirmer tout ce que tu viens de me dire, on va prendre un aller simple pour Marseille et la bonne mère ce matin. On va revenir sur l'un des artistes donc à succès qui perdure depuis longtemps dans le milieu du rap. Vous l'aurez sans doute reconnu, c'est donc Soprano. Music Time, votre magazine sur les dernières nouvelles et sur l'histoire de la musique. Direction donc la cité phocéenne aujourd'hui afin de retracer le très beau parcours de Soprano. À 39 ans, il reste l'un des rappeurs qui pèse dans le milieu en ayant vendu plus de 1,5 million d'albums. Après déjà plus de 20 ans de carrière où il a rempli les zéniths de France, il garde le même cap en chantant des hymnes festifs et met l'accent sur le pessimisme d'un monde malade. Soprano est parvenu à mélanger le rap et la chanson française, une prouesse largement plébiscitée et appréciée par son public. Son dernier album, L'Everest, sorti dans les bacs en 2016, confirme qu'il reste l'un des chouchous des Français. 13 titres composent cet opus. Pour la petite anecdote, ce chiffre n'a pas été choisi au hasard. Il rend hommage à sa ville, Marseille, dont le code département est le 13, tout simplement. L'un des titres qui cartonne dès sa sortie, c'est Cœur d'Onier, qui met l'accent sur la folie des hommes, sur le manque d'amour, où les cœurs des êtres humains sont endommagés. La solitude, l'entraide et les blessures de la vie composent ce single aussi pétillant que sensible.
Je vois dehors des cœurs en panne, des cœurs en or, devenir des cœurs de pierre.
Avec ce morceau, Soprano tente de secouer les consciences en dressant le bilan alarmiste du monde dans lequel on vit en invitant Monsieur le Cordonnier à venir le réparer, un texte très engagé. Autre titre bien plus émouvant, c'est Roule. Soprano revient ici sur la disparition d'un ami proche chez le DJ Sia Steel, des suites d'une longue maladie. Pour lui, l'écriture de ce texte est une véritable thérapie afin de le soigner de sa détresse et de sa douleur. On écoute tout de suite un extrait de cette chanson particulièrement poignante.
On pense à toi, on pleure parfois, on se demande pourquoi, mais ainsi va la vie. Au moins cette fois, ta douleur n'est plus là, tu reposes en paix, on croit au paradis. Tu nous voulais fort, tu nous voulais heureux, donc j'ai repris le sport, je fais de mon mieux. Mais la nuit, ton souvenir fait trop de bruit, impossible de dormir. Donc je roule, 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 roule dans les rues de ma ville. L'arme à l'œil, la boule au ventre, je refais le monde avec des cils. Oui, je roule, 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 roule jusqu'au bout de la nuit.
Avec l'Everest, Soprano accumule un nombre considérable de collaborations avec des artistes marseillais, Alonso, Jules ou encore Marina Kay, sur le titre Mon Everest. Et sur ce dernier morceau, Soprano met en lumière les problèmes auxquels il est confronté, le racisme notamment, qui peuvent le bloquer dans sa vie, mais ne vont au contraire que le motiver afin de réaliser ses rêves, un titre rempli d'espoir.
J'ai grimpé, j'ai grimpé, j'ai grimpé sans lâcher mes principes et mes valeurs. Jamais j'oublierai d'où je viens, je sais ce que c'est d'être un homme de couleur. Je sais ce que c'est de taffer deux fois plus pour pouvoir être à la hauteur. Si je chante la cosmopolitanie, c'est parce que j'en ai vu de toutes les couleurs. On m'a dit petit, réveille-toi t'es un peu trop rêveur. Petit tu as un trop gros appétit, la réalité est fade et sans saveur. Oublie tes rêves d'ado, comme tout le monde suit le troupeau. Mais le têtu que j'étais avait de la détermination plein le sac à dos. Aucune de leurs dissuasions m'a mis le genou à terre. Aucun médecin au monde ne pouvait soigner ma fièvre. Tout est possible quand tu sais qui tu es. Tout est possible quand t'assumes qui tu es. Aujourd'hui regarde-moi contempler mes sacrifices au sommet de mon Everest.
L'Everest se compose de chansons donc touchantes et pleines de sens. Le rappeur a entièrement écrit, composé et réalisé cet opus dans sa ville de Marseille, face à l'archipel du Frioul. Loin des nouvelles technologies, il dénonce à travers le morceau Mon Précieux cette addiction au smartphone. Dans son clip, Soprano est donc envahi au quotidien par son précieux, vous l'aurez donc compris, son téléphone portable. Le rappeur est tellement accro qu'il se retrouve téléporté dans un monde en 3D où les emojis sont rois. D'autres titres vont concrétiser le succès de cet album En Feu ou encore Le Diable ne s'habille plus en Prada. Sa tournée, l'Everest Tour, est classée comme la plus grosse tournée française de l'année 2017, avec plus de 100 dates à guichets fermés à travers les salles de concert de toute la France. Avant de connaître le succès, Soprano reste l'un des membres fondateurs du groupe marseillais Psyka de la Rime dans les années 90. Mais ce n'est seulement en 2007 que le jeune artiste va débuter sa carrière en solo. Très rapidement, il sort son premier opus, puisqu'il faut vivre. Le succès est au rendez-vous avec près de 200 000 ventes, portées par des morceaux qui deviendront des tubes comme « Hala, hala »,« Moi j'aime pas » ou encore « À la bienne ».
Pour le mic à Marseille, on le fait. Pour les mecs en bas des blocs, on le fait. Pour les sœurs qui se préservent, on le fait. Je te jure, cousin. Pour toute la jeunesse de France, on le fait. Pour les frangins enfermés, on le fait. Pour mes amis sur MySpace, on le fait. La famille, t'as compris. Nouvelle paire de baskets. Les grands frères perdent la tête. En petite équipe, on rôde en bolide. Ces mèches qui invitent.
Ce morceau entraînant a tourné durant tout l'été 2007 sur les ondes radio. Ce fut un véritable carton qui va permettre aux Marseillais d'élargir son public. Dans le clip apparaissent les frères Cantona, Psychiatre de la Rime ou entre autres Léa Castel. Cette chanson est une sorte d'hymne à la bonne humeur, reprenant donc une expression marseillaise bien connue. Pour ce premier album, Soprano reprend l'idée de la série télévisée Les Sopranos, où le héros de la fiction se confie souvent à son psychanalyste. Ici, le chanteur se confie à une journaliste. Originaire donc de Marseille, Soprano, né dans une famille comorienne de confession musulmane, son père travaille sur des pétroliers, quant à sa mère, elle est femme de ménage. Petit à petit, il découvrira la musique. C'est en 1994 que Soprano débute dans le rap français avec donc le groupe Psychiatre de la Rime, composé d'Alonzo, Vincenzo, ses cousins, et du DJ Siastil. En 2002, alors que l'album du groupe Bloc Party connaît un franc succès, Soprano ouvre son propre label. Rapidement sous cette étiquette, en 2004, il publie ses premières mixtapes, dont le concept est de remixer des morceaux américains. Entre-temps, des compilations de Bloc Party seront alors publiées. On y retrouvera un duo qui deviendra mythique, celui du chanteur et de Léa Castel. 3 ans après la sortie de son premier opus, Soprano revient sur la scène en 2010 avec ce second album, La Colombe. Il se classe premier des ventes en France et est certifié triple disque de platine. 3 singles en seront extraits, Crazy, mais surtout le tube Hero, interprété avec la chanteuse Indila.
Si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, je serais parti revivre la naissance de Lenny et d'Inaya. J'aurais été à Sanaa, boycotter le décollage de la 310 de la Yémenia. J'aurais été voir mon grand-père une dernière fois, lui dire que je m'occupe de sa fille, qui ne s'inquiète pas. Je serais parti voir Martin Luther King, après son discours lui montrer la photo de Barack Obama. J'aurais été au temple d'Harlem, pousser Malcolm de la scène avant qu'une balle l'atteigne. J'aurais été dans la cellule de Mandela pour lui dire tiens le coup, tes idées seront président du Sud-Africa. Amoureux de Lady Diana, j'aurais créé un gigantesque bouchon sous le pont de l'Alma. J'aurais été aux Bahamas, pas pour les vacances mais pour vider la soute de l'avion d'Alia.
Ce morceau marquera l'année 2010. Il fait référence au pouvoir temporel du personnage fictif Hiro Nakamura de la série Heroes. Le protagoniste peut ainsi voyager dans le temps. Dans son texte, Soprano explique que s'il pouvait remonter dans le passé, il ferait en sorte d'empêcher de se produire tous les événements malheureux dans le monde, voire même des faits personnels. Sans perdre de temps, l'année suivante, en 2011, sort l'album Le Corbeau. Il fait également un carton avec le morceau Chéri Coco, en tandem avec le groupe Magic System. C'est l'heure des premières collaborations pour Soprano. D'abord, C'est My Life, en duo avec DJ Abdel. Et en 2013, il rejoint Kenza Farah sur le titre Coup de cœur.
J'ai juré devant Dieu de faire la guerre à tes côtés. Oui, de ne jamais déserter face à tes problèmes de santé. Bébé, sans toi, je suis rien du tout. La vérité, tu es cette chaise sous mes pieds. Quand une corde me tient le cou, Kenza, t'as toujours été le pansement de toutes mes plaies. Quand dans ma tête c'était le feu, tu venais jouer les pompiers. Aujourd'hui je ne suis pas prêt d'entendre les médecins. Pour toi je me battrai jusqu'à ce que Dieu plaque me tende la main.
Je sais mais le temps passe, me demande ce que tu fais. Tu n'es plus présent, me sens comme abandonné. Sûrement avec des potes à traîner dans les halls. Pendant que je porte cette maladie seule sur mes épaules. J'attends toujours que sonne ce foutu beeper. Je vois la fin, tu es absent et j'ai si peur. L'espoir fait vivre, mais d'après les docteurs, il en reste si peu, je dois me préparer au pire.
Prends ma main, serre la force, j'ai si peur. Ma main,
Coup de cœur raconte l'histoire d'amour d'un couple confronté à la maladie. Le message du clip est fort, alors que l'idylle entre les deux protagonistes commence, on diagnostique à la jeune femme une maladie de cœur qui nécessite une greffe rapidement. Sans succès, après des jours de recherche, c'est finalement Soprano qui se dévoue pour offrir son cœur à la manière d'un suicide. Ensuite, Cosmopolitani, le quatrième album de Soprano en solo, est disponible en 2014. De ce disque sont extraits 6 singles, 2 particulièrement feront un tabac. D'abord, Millionnaire qui prend les allures d'un tube d'été. Le titre ne met pas l'accent sur l'argent, bien que le nom peut prêter à confusion, mais plutôt sur les relations humaines et les sourires échangés entre les êtres. Soprano pointe ici du doigt l'importance du partage, un morceau qui comporte un message donc très positif.
Je veux être riche de ton sourire, de ta volonté à reconstruire, de tes aventures, de tes croisières, de ta victoire face au cancer, de ton mariage, de ta grossesse, de ton pardon, de ta sagesse, de ta liberté loin de l'enclos, de ta différence, de ton drapeau. Oui, j'ai besoin d'air, je suis à découvert.
Dans ce quatrième opus, le single Clown reste sans doute le titre le plus beau et le plus touchant de tous ses tubes. Le morceau revient sur sa condition d'artiste et surtout il montre que la vie n'est pas toute rose tous les jours. Soprano met donc en avant les difficultés du métier à devoir accomplir malgré ses problèmes et le poids de son image médiatique. Faire bonne figure est le maître mot de ce texte.
Désolé ce soir, je n'ai pas le sourire. Je fais mine d'être sur la piste malgré la routine. J'ai le maquillage qui coule, mes larmes font de la lessive sur mon visage de clown. Je sais bien que vous n'en avez rien à faire de mes problèmes quotidiens, de mes poubelles, de mes colères. Je suis là pour vous faire oublier. Vous voulez que ça bouge? Ce soir je suis payé, je remets mon nez rouge.
Depuis le début de sa carrière, Soprano a eu de nombreuses influences musicales que l'on retrouve parfois dans ses titres. Michael Jackson, Daniel Balavoine, Kanye West, Jay-Z, Eminem ou même Amadou et Mariam. Dans une interview, Soprano dit appartenir à l'école de IAM en voulant casser les clichés du rap dit vulgaire et violent. Fort de son succès, il collabore avec de nombreux autres artistes ces dernières années. M. Pokora sur le morceau Mieux que nous, Naps avec Capuché, plus récemment Lilipo sur Amour si à moi, ou encore Patrick Fiori en interprétant Chez nous. Mais le morceau qui reste fort et emblématique, qui résonnait comme un tube sur les ondes, c'est No me mires más en tandem avec Kenji Chirac.
No me mires más, mires más. Je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Ne joue pas avec le danger. No me mires más, mires más. Je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça.
Si tu juegas con el peligro.
Ça fait plus d'une semaine qu'il te décrit comme un poème. Il nous parle que de toi, il vit sur un nuage depuis que tu vis dans ses bras. Hey, il a retrouvé le sourire depuis que tu es son avenir. Tu es devenu sa joie, mais tout a changé quand j'ai compris qu'il parlait de toi. Oh, oh, oh. Mais qu'est-ce que j'ai fait, oh bon Dieu? Il n'y a eu qu'une seule nuit entre nous deux. Ne nous approchons plus.
Par ailleurs, il a écrit le nouveau single des Enfoirés cette année avec le titre On fait le show. Plus récemment, il a coécrit le nouveau single de Tal, Mondial. Les récompenses tombent donc pour l'artiste. Il remporte entre autres le Energy Music Awards catégorie artiste masculin francophone de l'année en 2016 et 2017, deux années consécutivement. Soprano, c'est aussi un artiste très engagé pour de nombreuses causes. Il participe notamment au projet Paris Africa en 2011, dont tous les droits sont reversés à l'association du même nom, afin de lutter contre la famine et donc la crise alimentaire. Depuis avril dernier, il devient aussi l'ambassadeur de l'UNICEF en France. Et de son côté, il a créé une association venant en aide aux Comores, son pays d'origine. Il récolte ici donc, entre autres, du matériel médical et scolaire. Voilà, on arrive au terme de cette chronique musique sur Radio Prévert. Et toi Manon, est-ce que Soprano, c'est un artiste que t'apprécies écouter ?
Oui, j'aime bien ses morceaux, ils sont sympas.
Qu'est-ce qui te plaît dans ces morceaux justement, un peu Manon ?
Bah je dirais que ces morceaux, bah, ils veulent dire quelque chose. Beaucoup de musique de maintenant, ça veut pas dire grand-chose. Alors que lui, bah ses musiques, c'est bien toi, il y a un sens derrière, tu le sens quand tu l'écoutes.
Et tiens justement, il y a une musique qui te bouleverse un petit peu ou qui te touche dans celle qu'on a pu passer à l'antenne justement à l'instant ?
Bah, il y en a plusieurs que j'apprécie. Celle que j'ai le plus connue, le plus écoutée, je pense que c'est Hiro, parce que j'ai écouté au collège.
Mythique, ouais.
Bah, il est mythique. Hein. Et surtout parce que aussi j'avais regardé la série Heroes, donc je connaissais.
Sur TF1 à l'époque, si je dis pas de bêtises, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Ouais. Je connaissais le personnage dont il parlait. Après, Cœur de Nier est un très bel album, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi Millionnaire et Clown.
C'est vraiment forcément, oui.
Oui, c'est vraiment des clips qui sont vraiment sympas et qui ont vraiment une profondeur.
Oui, parce que les clips aussi ont un sens, outre le texte, les clips ont vraiment un sens et sont vraiment très très forts dans la manière dont ils sont constitués en quelque sorte. Et je vous conseille d'aller les voir justement, c'est une bonne chose aussi pour voir un petit peu l'envers du décor et ne pas écouter forcément que la musique, voilà. Et Manon, t'aimerais le voir en concert finalement, Soprano ?
Pourquoi pas ? Après, c'est vrai que je ne suis pas une personne à aller à beaucoup de concerts, j'en ai fait qu'un dans ma vie. Mais après, si à l'occasion, pourquoi pas hein.
Eh bien, écoute, Manon, c'est parfait. Moi, je vais te laisser la main maintenant. On va te retrouver maintenant avec ta chronique littérature. C'est à toi.
Exactement, c'est mon tour.
Je sens que je vais briller. Ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien ne peut. Si tu me parles, rien ne peut. Si tu me touches, rien ne peut. Car moi, ce soir, je suis en feu.
C'était Music Time sur Radio Prévert 105.9.
Nous allons maintenant enchaîner sur une chronique littérature pour votre plus grand plaisir.
Quoi de neuf au CDI, la chronique littéraire sur Radio Prévert 105.9.
On entre donc dans une chronique littérature. Et ce matin avec nous, Ileana. Bonjour Ileana.
Bonjour Manon.
Alors, de quel manga vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Switch Girl, qui est encore un shoujo, et j'en avais un petit peu, enfin, un peu parlé, pas du tout, mais je l'avais un peu, comment dire...
abordé ?
Merci, abordé la semaine dernière. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous en parler.
D'accord. C'est très bien, c'est déjà une avancée. Pourrais-tu nous repréciser ce qu'est un shoujo ?
Alors un shoujo, c'est un manga qui vise surtout un public féminin et qui parle surtout d'une histoire d'amour plus ou moins cocasse, on va dire. C'est comme ça, n'est-ce pas ? Et donc forcément, très souvent, ce sont des personnages, des filles, lambda. Passe-partout, qu'on peut croiser partout, et qui tombe amoureuse des mecs trop beaux, oulala, et qui bien sûr réussissent par on ne sait quel miracle à se faire sortir avec. Ça vend du rêve.
Voilà, auditeurs, normalement, vous avez tout compris.
Peut-être.
Alors, peut-être, oui. Pourrais-tu nous donner un petit résumé de ce manga ?
Alors, Switch Girl, ça parle donc d'une fille qui s'appelle Nika Tamiya. C'est japonais, donc voilà. Et en fait, cette fille, c'est une fille qui est extrêmement belle, qui est populaire, qui est bien dans sa peau, qui est un peu, même carrément la reine de son lycée, en fait, très clairement. Et en fait, Nika a un secret, c'est que au lycée, elle est vraiment belle, elle est apprêtée, tout ce que vous voulez. Mais quand elle est chez elle, en fait, elle se met vraiment à l'aise. C'est-à-dire, elle s'attache les cheveux n'importe comment, elle porte des grosses lunettes. Elle porte un pyjama carrément moche. Elle mange des aliments, comment dirais-je, des aliments un peu pour eux, vieux, on va dire entre guillemets, dans la société japonaise, on va dire. Enfin, elle porte au lieu de jolies culottes, de jolies lingeries, elle porte des vieilles culottes toutes effilochées, tout ce que vous voulez. Enfin, c'est vraiment le jour et la nuit en fait. Et du coup, Nika pour garder donc. Elle garde donc cette façade, ou donc ce mode off, comme elle l'appelle, secret pour pas justement ruiner toute sa popularité. Et du coup, c'est un manga qui est vraiment très très drôle, complètement déjanté. Et...
C'est donc un shoujo qui n'est peut-être pas aussi niais que les autres, donc.
Ah non, non, il y a certains shoujo qui, bon, toujours avec une certaine légèreté, mais qui parlent quand même de sujets assez graves, quand même, dont le viol. Il y a certains tomes, enfin un tome ou deux qui parlent quand même du viol, qui est quand même quelque chose de, bah, de malheureusement présent, mais qui le tourne toujours de manière un peu, même carrément, plutôt humoristique, mais pas dans le sens moqueur, si vous, mais vraiment dans le sens de, pour pouvoir aborder le sujet avec plus de légèreté, que c'est quand même, quelque chose de très facile à lire, et c'est toujours sympathique et ça nous permet de rire un bon coup, quoi.
Tu as l'air de beaucoup l'aimer, donc.
Ah, c'est vraiment un manga que j'ai adoré lire et qu'il est en une vingtaine de tomes. Je crois qu'il y en a 24 en tout. Donc, ça fait quand même déjà un bon petit tas de bouquins, mais c'est très facile à lire et les personnages sont très attachants aussi. Ils sont pas tout blancs ou tout noirs, ils sont gris, comme on aime bien dire, et c'est appréciable en fait, parce que du coup t'as plus de facilité aussi à te reconnaître peut-être dans les caractères des personnages.
Disons que ça fait quand même plus réel que certains shoujo qu'on peut lire.
Oui, voilà, et puis c'est très drôle parce que ça nous permet aussi de nous dire que même parfois, même dans notre société actuelle, sur les réseaux sociaux, quand on voit toutes ces filles qui sont hyper belles, hyper apprêtées sur les photos, etc., bah, ce manga, ça peut-être nous faire relativiser en nous disant que ça se trouve, ouais, chez elles sont en mode je m'en foutisme total, tu les verrais comme ça, ça dénigrerait complètement leur image, ou ça les rendrait plus normal entre guillemets. Et c'est plutôt appréciable d'avoir ce genre de livre, un peu, de se dire que, bah voilà, même s'il y a une jolie fille qui est hyper belle, qui est parfaite pour certaines personnes, ou surtout au collège, par exemple, où on a tendance à pas être bien dans notre peau au collège lycée, et on a très facilement tendance à jalouser, ça se dit, oui, à être jaloux.
Les défis.
Voilà, être jaloux des autres, et à même parfois même être fasciné ou être admiratif devant certaines personnes parce qu'elles ont des atouts physiques qui sont plus, comment dirais-je, plus beau d'une certaine manière,
attirante
voilà, que nous peut-être, et se dire que peut-être ces personnes là en extérieur, effectivement elles sont comme ça quand elles sont au lycée, au collège, etc., mais que chez elles ressemblent juste à une petite vieille qui je sais pas, qui mangerait chez nous, qu'est-ce qu'il y aurait comme aliment un peu vieux, un peu naze qu'on pourrait manger chez nous, que là dans le manga par exemple elle adore tout ce qui est calamars séchés ou des trucs comme ça, enfin des trucs qui donnent pas très envie, quoi.
Ah, chez nous, je pense que ce serait tout ce qui est abat, tu vois,
oui, voilà, le foie, exactement, les trucs, le truc est vraiment pas attirant, quoi. Ouais,
je me sens comme elle, du coup.
Alors que devant nous, elle mangerait un bon petit plat bien sophistiqué à la française, bien cuisiné, etc. Alors que chez elle, toute seule, ça se trouve, elle se bourrait d'abat, etc. Enfin,
des bonnes tripes. Et tu le conseilles du coup aux collégiennes?
Ah ben je le conseille, franchement c'est très facile à lire, même si, comme je l'ai dit, ça peut parler des fois des sujets un peu tabous, voire même assez graves. C'est toujours avec une certaine légèreté, donc c'est très facile à lire, que ce soit pour les collégiennes, même pour les lycéennes, hein, c'est vraiment très facile à lire, et c'est pas du tout choquant, quoi.
Et il aborde quoi comme thème important, ce manga? Parce que tout à l'heure, tu nous as parlé du viol.
Disons qu'il y a un tome où l'héroïne manque de se faire violer, mais il y a j'ai pas tout spoilé pour celles et ceux qui voudraient le lire, peut-être, mais il y a un truc qui fait que ça n'arrive pas, mais ce truc, il est complètement absurde, c'est-à-dire que tu t'attends pas à voir ça, en fait. Et du coup, t'es là en mode, mais comment, quoi? C'est un peu stupide, mais sinon, bah, y a quoi d'autre? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi un peu le jugement physique, même complètement. comme j'ai dit, l'héroïne, elle est très belle en apparence quand elle est en public, mais quand elle est chez elle, c'est ça a rien à voir, quoi. On la verrait, mais on prendrait peur. Enfin, je pense que certaines personnes la verraient, qui la verraient en vrai, prendraient peur ou seraient clairement en train de la juger. Et ça parle aussi de ça. Ça parle aussi un peu et surtout de la superficialité en fait des gens, de finalement s'intéresser que au physique et pas à ce qu'il y a à l'intérieur, finalement.
Ce serait donc une caricature de la société, quoi.
Bah complètement, oui, parce qu'on se rend compte aussi que les gens autour de Nika et même de son copain Kamiyama, qui lui aussi est très beau, mais lui c'est différent parce que lui, là où Nika, elle essaie de paraître la plus jolie possible et être hyper populaire, Kamiyama, c'est plutôt, je crois qu'il s'appelle en plus, je suis désolée, je l'ai pas lu, il est lu il y a un petit moment déjà, donc les noms, voilà. Mais son copain, lui c'est l'inverse, c'est que il essaie de cacher sa beauté en fait, avec des grosses lunettes, des culs de bouteille et de paraître pour le gros geek de la classe et tout. Et en fait, tu te rends compte que les deux manières, ils sont pas traités de la même manière. Quand Kamiyama n'a pas ses lunettes, toutes les filles sont à ses bras en mode, oh mon dieu, il est trop beau et tout, il est respecté, idolâtré des gens. Et quand il a ses culs de bouteille, il se fait limite insulter. Enfin, c'est con, c'est un petit détail, mais c'est vrai que quand tu, c'est, même dans la vraie vie, j'ai envie de dire, tu te rends compte que le physique, bah, beaucoup de gens apportent énormément d'importance, et pour peu que tu ne sois pas à leur goût, tu te fais facilement insulter ou limite cracher à la gueule juste pour ça, quoi. Et c'est dégueulasse, hein.
Donc c'est un manga qui vient donc du Japon. Penses-tu qu'au Japon, dans la société japonaise, surtout dans les milieux scolaires, donc lycée, ça se passe comme ça ou bah justement que ce soit une caricature justement de cette société japonaise?
Bah je pense que de toute manière le physique, bah de toute façon tout ce qui est beau physiquement, enfin tout ce qui est beau en règle générale, c'est subjectif, quoi. Ça dépend des cultures et des goûts de chacun, donc mais je pense qu'effectivement ça peut être aussi un peu même ouais carrément caricaturer peut-être la société japonaise, mais c'est quand même malgré tout ce manga caricature aussi quelque chose qu'on peut facilement voir en Occident, donc je pense que ça vise pas que le Japon finalement, surtout que bon je pense que bah ça je me souviens pas, mais je sais qu'au Japon par exemple c'est la mode est au fait que les femmes doivent être extrêmement minces, donc certaines se font vomir exprès pour garder une certaine ligne, quoi, et carrément frôler l'anorexie chez certaines. Il me semble pas que ce manga en parle, donc je pense que ça vise un peu ça vise pas forcément que le Japon, je pense que ça peut viser un peu tous les pays du monde, je pense, très facilement, quoi. Enfin, de toute façon, le message principal, je pense, c'est surtout que s'il n'y a pas que le physique qui compte, quoi, qu'importe le pays ou qu'importe la culture ou dans quelle vie on mène, quoi.
Tu penses que si plus de personnes lisaient ce genre de manga, livre, roman ou autre, est-ce que ça pourrait peut-être changer un peu notre société?
Changer, je sais pas, parce que je pense que ce serait pas du tout suffisant. Mais peut-être que ça pourrait en faire réfléchir certains et certaines, de se dire que bah finalement peut-être que la personne qu'on admirait parce que elle était trop belle, parce qu'elle a des cheveux magnifiques, parce que si, parce que ça, finalement on n'était pas si parfaite que ça. Ça nous permet peut-être aussi de sortir de certaines illusions. Et je pense que c'est peut-être pas plus mal, même si on dit l'espoir fait vivre, ou je ne sais, ou faut croire en ses rêves, ou je ne sais quelle connerie. Bah, c'est bien aussi de rester un peu dans la réalité et de se dire que bah rien n'est parfait, rien n'est tout rose. Même s'il y a des gens qui sont effectivement très beaux physiquement, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, ou que ce soit au niveau du cœur, comme certains aimeraient bien dire, et même au niveau de la tête, il y a vraiment quelque chose. Enfin, je veux dire, après, voilà, certains apporte beaucoup d'importance au physique, effectivement. C'est vrai que il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est le physique attire, mais c'est le caractère qui retient. Donc pour moi c'est vrai, c'est qu'effectivement s'il y a un garçon que je trouve beau mais que il est con comme la lune, ça va pas aller très loin, quoi. Un peu triste d'ailleurs.
Je pense que pour beaucoup de filles comme moi d'ailleurs, c'est le cas. On comprend tout à fait. Pour revenir au manga, parce que bon, là, on est un peu parti dans les questions de société, quand même.
C'est beau.
Oui, nous sommes des filles qui aimons développer les choses. Pourrais-tu nous dire quel est ton personnage préféré dans ce manga ?
Honnêtement, j'aime beaucoup le personnage de Nika. Parce que même si c'est quelqu'un de très déjanté, forcément, le manga est lui-même très déjanté, mais c'est quelqu'un qui a un fort sens de la justice, vraiment, et qui même si, quelque part, on peut la trouver superficielle, parce que, elle s'apprête beaucoup, elle tient à ce que les gens au lycée ne la voient que quand elle est en mode hyper jolie, etc. Tu te rends compte quand même que, malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui a un grand sens de la justice et qui est très attachant, parce que, même quand elle connaissait Kamiyama que avec ses culs de bouteille, finalement, elle l'a tout de suite accepté, quoi. Donc, c'est un personnage qui est vraiment très très attachant et très vraiment adorable. Et sa meilleure amie aussi, dont j'ai oublié le nom, sympathique. Mais, elle a aussi une meilleure amie qui est plus, qui est un peu la sagesse incarnée, j'ai envie de dire, et qui est plus posée, plus calme, qui est aussi très très agréable comme personnage à avoir. Et ça permet aussi d'avoir un peu les deux extrêmes. T'as d'un côté l'héroïne qui est complètement déjantée, complètement faux-folle, et de l'autre t'as sa meilleure amie qui essaie un peu de canaliser toutes ces conneries, clairement. Et je pense que les personnages en soi, ils sont hyper attachants. Donc même Kamiyama est un personnage masculin qui est hyper sympa et qui change aussi au fur et à mesure qu'il traîne avec Nika. C'est qu'au début il est vraiment en mode je reste dans mon coin, un peu, pour ceux qui ont vu Naruto, un peu un Sasuke bis, d'une certaine manière. Et puis au final, il s'ouvre petit à petit, et lui aussi, il commence à avoir un grand sens de la justice, et à vouloir aider un peu tout le monde, un peu comme Nika, quoi, au final.
L'évolution des personnages, t'as donc fait beaucoup t'attacher à eux, en fait.
Ouais. Mais en fait, je les trouve tous attachants, en fait. C'était très con à dire, mais ils sont vraiment tous attachants, ils ont tous une certaine évolution, et ce qui les rend vraiment intéressants, je trouve.
Oui, des caractères qui sont très hétérogènes les uns des autres. Ça fait combien de temps que tu le lis ?
Lui, ça va bien faire... peut-être pas du collège, mais bien début lycée, je dirais.
Début lycée, donc ça fait 5 ans ?
Ouais.
Et oui, les mangas, ça commence à n'importe quel instant. Tu as donc la collection entière ?
Ouais, cette fois-ci, j'ai tous les tomes.
S'il y avait une suite qui sortait, tu la lirais aussi ?
Oh, je pense, pourquoi pas, après avoir comment ils amèneraient le truc, mais je pense que oui.
On voit que ce manga t'a beaucoup plu, de ce que j'ai pu entendre.
Oui.
Et je le conseille donc, puisque moi-même je l'ai lu.
Et oui.
Et c'est un manga... En vrai, c'est vrai qu'un manga qui te dit « ne te fie pas aux apparences » est un très bon manga de base.
Oui, oui. Bon, après, j'imagine bien que c'est peut-être pas suffisant, mais peut-être que ça peut au moins faire réfléchir certains ou te permettre de changer un peu ta façon de voir les choses. Moi, je sais que ça m'a un petit peu aidé à changer ma façon de voir les choses, parce que, au collège, même au début lycée, même un peu comme un peu tout le monde, peut-être, j'espère, il y en a un peu... Je pense qu'on a tous eu une période où on avait facilement tendance à juger physiquement les gens, que ce soit parce qu'on était mal dans notre peau ou tout simplement parce que, on voit des gens le faire à côté de nous, du coup, forcément, comme on a tendance à imiter ce qu'on voit, on fait la même chose, bêtement. Et mine de rien, avoir un petit peu ce côté un peu moralisateur, mais sans te bourrer le crâne. Ça te permet quand même de réfléchir, mais à bonne dose, tu te dis « Ah ouais, pensez pas que le fait de dire ça à telle personne, que c'est con, mais que ce soit au collège ou au lycée, il y a beaucoup de... Les insultes sont sur le physique surtout, parce que c'est tellement plus facile. C'est trop facile, mais... je sais pas si je peux dire que ce sont des excuses, mais... Ce qui revient surtout chez les harceleurs, quand on leur dit, quand ils sont pris au fait d'harceler quelqu'un en l'insultant et tout, c'est qu'ils disent souvent, mais je pensais pas que ça lui faisait aussi mal. Et t'es là en mode, pour nous, quand on est, extérieur à tout ça, au conflit, on se dit, mais c'est complètement idiot, comment tu peux te dire que le fait d'insulter quelqu'un, ça va lui faire plaisir. Enfin, toi, tu comprends pas. Et après, je pense qu'il faut aussi peut-être un peu se mettre à la place des gens qui sont souvent très jeunes et qui se rendent pas compte que les mots, mine de rien, ça peut faire très très mal quand c'est utilisé à mauvais escient, quoi.
Les mots ont un pouvoir, ne l'oubliez pas.
Eh oui. C'est le côté moralisateur de tout ça.
Le côté moralisateur. Donc n'oubliez pas, chers auditeurs...
Soyez gentils, parce que c'est pas gentil d'être méchant.
Voilà, mais en plus développé, ne jugez pas facilement les autres. Acceptez-vous tel que vous êtes, car vos défauts physiques ou vos défauts tout court, en fait...
Ça peut faire des qualités chez certains.
Chez pour certains, ce seront des qualités, ne l'oubliez pas. La différence physique que vous avez avec les autres fait votre force, car justement, ça montre que vous êtes différent.
Et ça, c'est beau.
Et oui, car nous n'avons pas tous envie d'être un clone d'autres personnes.
Bon, alors, si vous avez envie, c'est votre choix, mais...
Bon, eh bien, nous en avons terminé pour cette chronique littérature. Merci à toi, Ilana.
Mais de rien.
J'espère que l'on te retrouvera bientôt.
Peut-être plus tôt que prévu.
Ah, peut-être qu'elle reviendra encore plus vite que vous ne le pensez.
Ils vont en avoir marre, je pense, à la fin.
Je ne sais pas, nous verrons bien. Si on souhaite des insultes sur le Facebook de Radio Préfère, c'est que déjà, ils n'auront pas compris notre message.
Puis, bah, surtout, je dirais, il n'y a que les rageux, d'abord, hein, voilà.
Merci d'avoir suivi notre chronique, donc.
Oui, merci.
Au revoir, Ilana, et merci.
Au revoir.
C'était Quoi de neuf au CDI sur Radio Prévert 105.9.
Et nous allons encore continuer avec une petite pause musicale avec Oe des Trois Mousquetaires, Video Killed Superstar.
Un titre qui n'est pas sans rappeler justement, je te coupe maintenant, mais le film Radio Star auquel on avait parlé il y a quelques temps dans la matinale.
Ouais, donc sur lequel tu avais fait une chronique cinéma, il me semble.
Tout à fait.
Donc, je redisais, Video Killed Superstar de The Buggles, je ne sais pas si je le dis correctement.
Si, c'est bien.
Ou, et pour finir, La Même de Maître Gims et Vianney, qui d'ailleurs fait un carton en ce moment.
En ce moment, c'est sorti il y a quelques semaines, et ça marche plutôt pas mal, de leur côté.
Et ben, si on pouvait tous en faire autant.
Il y a une petite pause maintenant sur Radio Prévert. Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9.
Traverser du désert. stop you coming through.
La vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey, aïe, 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 aïe.
Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même.
Hey, aïe, 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 aïe.
Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même.
On prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais, jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis.
Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque.
Hey, aïe, 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 aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même.
Hey, aïe, aïe, aïe.
chérie. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis.
T'es entré dans ma vie, oh ma liberté chérie. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis.
Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même.
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9.
De retour sur Radio Prévert, et Stéphane, tu vas nous parler cinéma dans la suite de cette matinale. Tu reçois Bilal Belmadi, un jeune cinéaste qui me semble très connu à Chalon-sur-Saône. C'est à vous les gars. Ciné News, la chronique du 7ème art sur Radio Prévert, 105.9.
On se retrouve sur Radio Prévert aujourd'hui et on va ouvrir une page cinéma avec un Chalonnais bien connu ici pour les vidéos qu'il publie sur internet depuis maintenant quelques années. C'est Bilal Belmadi. Vous le connaissez sans doute. Salut Bilal.
Salut.
Tu fais ton retour sur les bancs du collège Jacques Prévert ici à Chalon, un établissement que tu connais bien pour l'avoir fréquenté. On te reçoit aujourd'hui afin que tu nous parles un peu plus donc de ta passion pour le cinéma et pour la vidéo de manière générale. Et il y a quelques années justement, tu décides alors de créer l'association Cité Créatif. Pourquoi t'as fait le choix de créer cette structure et quels en sont finalement les objectifs ?
Alors en fait justement, moi vu que j'ai grandi juste à Chalon, je sais qu'il manquait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément tout ce que je voulais moi et puis justement je voulais l'apporter à d'autres. La culture et je sentais que c'était un peu fermé ici. Voilà, il y avait beaucoup de sport. Moi qui m'intéressais beaucoup au théâtre, au cinéma, je me suis dit bah tiens, il manque quelque chose ici, il manque au niveau culturel, quelque chose de frais. Donc j'ai décidé de créer la Cité Créative justement pour apporter ça aux jeunes. Un peu mon expérience, un peu ma passion.
Donc pour toi, Chalon-sur-Saône, c'était obligé de le faire ici et pas à Dijon, qui est peut-être plus ouvert ou plus grand justement ?
Non, parce que Chalon-sur-Saône, je connais vu que j'ai grandi ici, puis je connais directement les personnes. Enfin, je trouve que justement, on devrait faire un projet là où il faut le faire en fait. C'est-à-dire, je vais pas le faire à Paris, là où il y a déjà les structures, là où à Dijon, où c'est une grande ville justement, où il y a déjà ce qu'il faut. Et je me suis dit, bah c'est à Chalon qu'il faut le faire parce qu'il y a justement, il y a pas ça. Il faut apporter quelque chose de nouveau. Et puis c'est pas un projet pour moi, donc c'est pour ça, c'est un projet pour les autres. C'est pour ça que c'était important de le faire là où il y avait pas ce genre de projet.
Et justement, le cinéma, quel intérêt pour les jeunes ?
Le cinéma, en fait, pour moi, c'est une puissance médiatique. On peut transmettre des messages, transmettre des émotions. Avec un film, on est capable d'influencer un public. Je trouvais que c'est important justement de donner la parole à des jeunes parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont quelque chose à dire. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas leur permettre de s'exprimer devant une caméra à travers des films de fiction.
Et justement, les thèmes que tu abordes généralement, quels sont-ils ?
En fait, notre but de la soirée justement, c'est de faire des films positifs avec des messages. Donc ça peut être la fraternité, la solidarité, tout ce qui est positif. On peut faire des films tristes, on peut faire des films dramatiques, mais derrière, il y a toujours un petit message pour motiver les jeunes, en fait. C'est pas forcément les jeunes, mais motiver le public.
Et justement, t'as un court-métrage qui te vient en tête avec un message fort que t'as voulu transmettre dans une de tes vidéos.
Base de fraternité, parce que justement, c'est un film d'actualité. Donc, ça concerne la nouvelle technologie. Les jeunes préfèrent filmer au lieu d'agir, justement, sur des scènes... Enfin, par exemple, s'il y a une bagarre, les jeunes vont plus filmer pour faire le buzz qu'intervenir justement pour séparer la bagarre. Je reprends souvent justement ce thème-là dans plusieurs vidéos. Justement, le fait de vouloir filmer à tout prix, c'est un peu du voyeurisme, voilà.
Très bien. Donc on poursuit. Et donc avec ton association, on reste donc à Chalon toujours. Il y a un projet phare que tu as mené, c'est le festival Viens voir avec mes yeux. Et justement, en septembre dernier, tu as monté de toutes pièces donc la première édition de ce festival pour diffuser donc les courts-métrages des habitants de Chalon avec qui tu as collaboré. Est-ce que c'était nécessaire voilà, de créer un tel événement ici, donc à Chalon, toujours donc à Chalon, au quartier du Stade, et non pas, par exemple, au centre-ville ?
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis au Conseil des citoyens. Donc, c'est un conseil qui a été mis en place par l'État pour les quartiers prioritaires. Et justement, le but de ce conseil, c'est de proposer des projets, justement, pour les quartiers. Pour moi, c'est toute ma vie, en fait. Le quartier, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai appris énormément de choses. Et pour moi, c'était important de, surtout aujourd'hui, parce que le quartier, il commence à mourir un peu. Il y a de moins en moins de monde, il y a de moins en moins de projets. On a juste à voir les fêtes de quartier. Avant, il y avait énormément de monde. Et maintenant, il y a plus personne. Il y a 2-3 stands. Et je trouve que c'est dommage de laisser tomber en fait justement le quartier. Et sachant que mon projet en lui-même, eh ben, il concerne toute la ville. Ben, je me suis dit qu'il fallait faire un truc justement pour ce quartier, pour aussi inviter justement toute la ville à venir dans ce quartier. C'est pour ça que je dis « Viens voir avec mes yeux », c'est le titre. C'est, en gros, j'incite tous les habitants qui viennent de quartier ou d'ailleurs de venir voir avec nos yeux justement ce qui se passe et les talents qu'il y a, pour justement leur montrer qu'il y a encore quelque chose en fait à faire. Et voilà, c'est pour animer un peu le quartier. Et puis, il ne faut pas oublier d'où on vient aussi. Donc voilà, pour moi, c'était très important.
Donc, en quelque sorte, mettre la lumière sur le quartier, le redynamiser et casser peut-être un petit peu les clichés qu'on peut entendre parfois sur le quartier également.
Exactement, ouais, c'est exactement ça. Essayer de montrer quelque chose de positif, contrairement à ce qu'on croit. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec d'autres personnes qui avaient des images négatives justement du quartier. Et pour moi, c'était important justement de redorer un peu le quartier, de leur montrer justement qu'il se passe des choses positives et qu'il y avait des gens qui avaient envie justement de voir ce quartier évoluer. Et
justement, les Chalonnais ont répondu présent justement à ton invitation ?
Ouais, il y avait énormément de monde, malgré que j'avais galéré un peu au niveau de la communication. Moi, personnellement, j'étais très fier hein, justement parce qu'il y avait environ 200 personnes, enfin voilà, à peu près. J'étais surpris de voir autant de monde et il y avait même des personnes déçues parce que il y avait pas assez de communication. Ils m'ont dit mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu cette communication. L'année prochaine on reviendrait avec toute notre famille parce qu'on savait pas trop en quoi ça consistait. Et justement c'est ça qui est bien, c'est que parce que c'est quelque chose de nouveau pour eux, parce que bon on a l'habitude des cinémas en plein air mais souvent pour voir des films qu'on a déjà vus au cinéma, donc c'est un moment convivial. Mais alors que là c'est des films qu'on réalise nous-mêmes. Il y a des familles qui voient leur propre fils justement au grand écran. Il y a des personnes qui voient leurs propres potes, etc. Donc ça motive des jeunes et en même temps ça prouve aux familles que leur fils ils ont du talent, enfin voilà, ils sont fiers.
De la fierté, de la reconnaissance également, j'imagine. Ouais. Et pour mettre en place ce festival, j'imagine que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Quelle organisation tu as eue pour aboutir à cet événement ?
Franchement, c'était compliqué au début parce que j'ai commencé à avoir les subventions au mois de mai, j'avais pas de caméra, j'avais pas de matériel adéquat pour faire des films de qualité. Et pour moi, c'était très important justement la qualité. Et, j'avais peur au début parce que je me suis dit, ouais, il me reste que 3 mois, je comptais les jours. C'était compliqué parce qu'il fallait tout faire, fallait prévoir la communication aussi. Enfin, cette première année, franchement, c'était super difficile, mais c'était important justement de montrer que c'était pas des paroles en l'air, que je voulais absolument faire ce festival, juste pour montrer qu'on a fait quelque chose, aussi pour montrer qu'après il y aurait une évolution justement. Même si là on se rate, on va relâcher derrière pour justement montrer que on a progressé, etc. Mais le premier but justement de l'année dernière, c'était de montrer aux personnes que c'était un projet concret. Qu'on n'a pas dit ouais on va faire ça mais on sait pas trop. Là c'était vraiment on voulait le faire. Même le Cyril Georges justement, le délégué du sous-préfet, il avait peur parce qu'il s'est dit ouais, on s'approche quand même de la date échéance et puis il y a encore rien du tout. Enfin même au mois d'août j'avais pas tous les films, il restait quoi, même pas un mois. Je me suis dit comment je vais faire, et finalement ça s'est super bien passé. Donc et je me dis que cette année on va encore mieux se préparer et peut-être l'année prochaine ça sera encore 10 fois mieux. Donc pour moi c'est une bonne expérience, on va dire.
Parce que justement, il y aura une seconde édition donc cette année.
C'est ça, mois de septembre. J'ai pas encore la date parce que ça dépend de la météo, mais mois de septembre, il y aura une deuxième édition du festival.
Et donc, voilà, fort de ton succès un petit peu qui grandit depuis quelques temps maintenant, direction donc la capitale maintenant, où tu participes au concours donc toi-même tu filmes en partenariat avec YouTube et le Jamel Comedy Club. Et ce concours, tu vas le remporter justement en janvier dernier, donc à Paris, avec le film dont tu nous as parlé à l'instant, donc Buzz ou Fraternité. En décrochant le prix national du meilleur film associatif. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette compétition à laquelle tu as participé ?
En fait, c'est le service jeunesse de la ville qui ont accueilli l'année dernière l'atelier cinéma de YouTube, donc avec Talent en cours aussi, donc du Jamel Comedy Club. Je connaissais vaguement, mais je me suis intéressé directement parce que je me suis dit un atelier cinéma, c'est un truc à faire. Et donc, j'ai reçu un appel du service jeunesse qui m'ont dit « viens avec ton association et vois ce qu'on peut faire ». Et donc, on est parti, on a fait l'atelier en 2 jours, on nous a expliqué justement qu'il y avait un concours. L'atelier, en fait, justement, il servait à initier les jeunes. Ce qui m'intéressait à l'atelier, c'était qu'il mettait en garde justement les jeunes par rapport aux dangers d'Internet. Avec le thème de la fraternité, ils nous ont demandé justement de faire des films pour le concours. Et moi, je trouvais ça intéressant, je me suis dit « tiens, ça va être notre premier concours ». Parce que moi, c'était un peu le but de l'association, de participer à des concours pour valoriser un peu le travail des jeunes. Et je me suis dit, c'est l'occasion justement, en plus avec le thème de la fraternité, ça nous correspond. Et donc, je commence à parler aux jeunes, je commence à leur dire, voilà, il y a ce concours, il se finit le 30 octobre, je crois. Et il faut absolument qu'on fasse des films. Et ce qui était bien, c'est qu'on n'était pas limité à un seul film. On pouvait faire autant de films qu'on voulait pour avoir plus de chances de gagner. Et donc, voilà, on a commencé à réaliser 4 films. Au départ, c'était 3. On s'est dit, on va réaliser 3. Et puis, le dernier jour, je me souviens, j'étais avec justement avec les jeunes du quartier, en fait, Omar, Mediane et puis Bachar. Et justement, je commençais à leur parler du concours et puis ils étaient intéressés. Et le jour même, on a commencé à réaliser le film justement Buzz ou Fraternité qui a été fait genre spontanément. il n'y a pas eu d'écriture. J'ai juste parlé du thème. Et ils m'ont sorti un scénario comme ça sur le vif. Enfin, pour te dire qu'ils sont créatifs. Hein. Et du coup, en fait, il s'avère que c'est ce film-là qui a été sélectionné pour la finale. Les autres films, ils ont été sélectionnés aussi, mais c'est ce film-là qui avait le plus de coup de cœur, en fait, justement, par rapport au jury. Déjà, c'était une première surprise, justement, de voir que ce film-là, il a plu à tout le monde. Même quand je l'ai posté sur Facebook, il y avait énormément de messages par rapport à ça. Ça nous a motivés. Ça nous a mis un peu de pression parce qu'on s'est dit, bon, les gens, ils aiment bien, mais c'est le jury qu'il faut convaincre. Donc, ça veut rien dire. C'est pas parce que là, on a beaucoup de personnes qui aiment que ça veut dire qu'on va gagner. Et donc, voilà, après, on est monté à Paris. On a essayé de penser à autre chose. Moi, j'ai même pas préparé de discours pour te dire parce que je me suis dit, bon, de toute façon, je gagne jamais rien. Donc, là, c'est juste le fait de participer. Donc, c'est déjà bien. Donc, quand ils ont annoncé qu'on avait gagné justement le prix des associations, moi je stressais un peu parce que je me suis dit, mais enfin, mince, il faut que je parle. Donc, j'ai parlé au nom des jeunes. Enfin, c'était une grande surprise pour nous, puis c'était une grande fierté et une grande motivation justement pour les jeunes. Parce que derrière, ils se sont dit, mais wow, on est devant Jamel Debbouze. Donc, Jamel Debbouze, il a vu notre film. Donc, les jeunes, ils se sont dit, mais c'est ouf. Et donc, ça les a motivés pour la suite. Le lendemain, ils m'ont direct appelé en me disant, vas-y, il faut qu'on fasse un autre film, là, et on peut plus attendre. Pour moi, c'était une grande réussite, en fait, pas que sur le plan du prix. Sur autre chose, justement, sur le plan de l'association.
La fierté personnelle aussi, donner l'envie aux jeunes de continuer, de poursuivre leur effort pour, au final, continuer la production de vidéos et pas se relâcher en quelque sorte, c'est ça?
C'est ça, ouais. Pas se reposer sur les lauriers en disant, vas-y, c'est bon, on a gagné un prix, on arrête. Là, c'était vraiment genre, on a gagné un prix, ok, il faut qu'on travaille encore plus pour avoir d'autres prix, puis aller encore plus loin. Donc, avec des concours plus concrets, des concours plus professionnels, ça nous a motivés.
Donc, t'en retires beaucoup de positifs, et même pour tes collègues, de cette expérience au final.
Ouais, totalement.
On va revenir un petit peu sur Cité Créatif. Pour arriver à construire justement les projets, tu nous parlais de subventions, mais quelles sont-elles finalement les aides, les partenariats que tu as mis en place pour pouvoir aboutir à tes projets en quelque sorte?
Alors moi j'ai reçu beaucoup d'aides au départ justement avec le Conseil des citoyens, donc avec Fabienne Paris, avec Cyril Georges qui nous ont aidés justement, qui nous ont épaulés. Et justement ils nous ont parlé justement, il y a le FPH, donc le Fonds de Participation des Habitants, que peu de personnes connaissent, c'est dommage parce que c'est un projet qui concerne les quartiers prioritaires, qui peut aider des personnes qui ont un projet en fait, qui va à hauteur de 1000 euros. Et après il y a le contrat de ville, donc qui m'a beaucoup aidé aussi. Et après il y a un coup de pouce, justement c'est le coup de pouce du service jeunesse, que j'ai pas demandé mais qui pouvait m'aider. Donc en fait, quand on a un projet, il faut vraiment se documenter, justement s'orienter vers les bonnes personnes, parce qu'il y a énormément d'aides et puis on n'est pas forcément au courant. Sans les aides de la vue, j'aurais pas pu faire justement le festival qui m'a coûté cher justement au final. Donc voilà, je les remercie au passage.
Très bien. Et au sein de l'association, t'es seul à gérer tout ça, le festival, ou t'es en équipe avec d'autres jeunes justement pour vraiment la conception de tes projets?
Non, au tout départ, j'étais seul. Quand j'ai commencé à écrire le projet, quand j'ai commencé à réfléchir, justement, j'étais un peu seul. C'était super difficile parce que quand on est seul, bah, il faut penser à tout. Et on n'a pas forcément tous les avis. Enfin, on a notre idée à nous et puis on se concentre que sur notre avis. Et c'est important, justement, d'avoir plusieurs avis. Et donc, mon premier objectif, c'était de réunir une équipe. Donc, au départ, en fait, justement, je ne savais pas trop si je voulais accueillir tout le monde dans l'association ou faire une équipe qui va à la rencontre des jeunes. Et justement, avec le temps, on a réfléchi. Et puis, le mieux, en fait, c'était de faire une équipe fixe. C'est-à-dire de réalisateurs, en fait, des personnes qui vont m'aider à la réalisation. Et on va à la rencontre des jeunes. Donc, c'est à nous de faire le premier pas vers les jeunes. Voilà, donc l'association, elle est composée uniquement de l'équipe fixe qui va à la rencontre des jeunes. Au départ, c'était compliqué, mais là, maintenant, ça va super bien parce que j'ai une équipe. J'ai Anthony Dio qui me suit partout. Il y a Louise aussi, Cornu, qui va faire une école de cinéma. Il y a Charlie Gonzalez, il y a Doan. Il y a énormément de personnes qui constituent un peu l'équipe.
Et justement, s'il y a un jeune de la région ou même de Chalon qui souhaite rejoindre ton association, c'est possible?
Ouais, bien sûr, ouais, il y a aucun souci. Donc justement, en fait, nous, notre but, c'est d'accueillir un maximum de personnes. Et justement, c'est pour ça que j'ai choisi le nom de Cité Créative, parce que c'est un jeu de mots. Donc si tu es créatif, t'es le bienvenu, tout simplement.
Ah, c'est un jeu de mots, d'accord.
Ouais, si tu es créatif.
Très bien, bah, on apprend quelque chose en tout cas. Et à l'avenir, justement, ton association, t'aimerais qu'elle évolue dans quel sens? Qu'est-ce que t'aimerais mettre en place, justement, pour qu'elle prenne de l'importance, au final?
Bien sûr. Pour l'instant, on a Chalon. Pour l'instant, on essaie de faire évoluer un peu Chalon. Mais mon but aussi, c'est de faire dans d'autres villes, pourquoi pas? Justement, dans d'autres quartiers, dans d'autres villes. Et justement, notre but, c'est d'évoluer au national. En fait. Je me laisse encore 2-3 ans, quand même. Donc pour l'instant, c'est vraiment, on essaie de faire ça bien à Chalon pour prouver que justement on est capable de faire quelque chose. Et ensuite, dès qu'on a prouvé un peu, je vais pas dire prouvé, mais dès qu'on a fait quelque chose de concret, et ben là on pourra s'orienter vers autre chose. Donc pour l'instant, notre but, c'est vraiment de faire évoluer Chalon et puis après on verra. Mais ça fait partie de notre objectif, justement, de progresser un peu au niveau national.
C'est parfait. Et on va poursuivre avec la dernière partie de cet entretien en parlant de toi maintenant, Bilal. Qu'est-ce qui t'a fait prendre finalement le chemin de la fiction et du cinéma? Qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui t'a plu? Et est-ce que c'est vraiment, en quelque sorte, quelque chose que tu as depuis ton enfance?
Bah, en fait, moi, depuis tout petit, j'adorais le théâtre. Malheureusement, à l'école, bah, j'en faisais pas parce que ça dépendait des classes. Il y a des classes qui faisaient du théâtre, d'autres classes qui faisaient du chant. Et donc, moi, je tombais toujours sur la classe qui faisait le chant ou qui faisait quelque chose qui ne me correspondait pas forcément. Et justement, moi, le théâtre, ça m'attirait. Et puis, je pensais que c'était uniquement destiné à d'autres personnes, en fait. Parce que nous, on nous proposait uniquement des, par exemple, le bac STI, le bac STG, enfin, bac L, etc. Ça ne me correspondait pas. Et puis, j'avais l'impression qu'on n'avait pas d'autre choix, en fait. Donc, au début, je suivais le cours des choses. Donc, j'ai commencé à faire un bac STI. Après, je suis parti faire sport-études parce que le sport, ça m'intéressait beaucoup. Enfin, j'ai eu un déclic et je me suis dit, bah non, en fait, il faut que je fasse quelque chose que j'aime, qu'il faut que j'arrête de suivre justement le cours des choses, que je suive ce qu'on nous propose, que c'était à moi de créer justement mon destin. Et donc, enfin, par pur hasard, en fait, j'ai rencontré une personne qui faisait des vidéos avec son portable. Donc, j'ai commencé à sympathiser. On a fait des vidéos juste pour rigoler. Donc, c'est ça qui m'a fait kiffer justement un peu le cinéma. Et étant donné que j'avais peu de motivation dans le sport, je commençais à baisser les bras dans le sport. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire un film de motivation, justement un film de fiction, pour me motiver dans le sport. Pour moi, c'était juste le premier film, en fait, qui m'a donné goût, justement, au cinéma. Après ce film-là, je l'avais envoyé, je me souviens, à Cédric Clapiche, en fait, c'est un réalisateur, et qui m'a dit que c'était super bien filmé, donc j'avais une fierté, j'étais en train de kiffer à ce moment-là. Et je me suis dit, mais ok, donc en fait, c'est bon, je vais me lancer dans ça, je commence à apprendre, donc j'ai passé des nuits blanches à apprendre. Juste pour dire, en fait, quand on veut faire quelque chose, bah, il faut s'en donner les moyens. Et moi, c'est pas du jour au lendemain que j'ai commencé à apprendre. C'est vraiment, j'ai passé des nuits blanches, j'ai commencé à penser que à ça. Et aujourd'hui, si j'en suis là, c'est parce que j'ai travaillé pour ça, justement. Je suis pas arrivé ici par hasard, en fait. Comparé à d'autres personnes qui sont là par hasard, qui font des vidéos et qui voient justement leur succès grimper parce que ça marche. Mais ils expliquent vraiment dans leur interview que c'est par hasard. Alors que moi, c'est vraiment parce que j'ai travaillé. Parce que j'ai voulu que ça se passe comme ça, parce que... Et même à un moment, il y a 2 ans, quand j'ai commencé à faire des vues, donc j'ai environ 5-6 vidéos qui ont commencé à faire beaucoup de vues, enfin, qui se rapprochaient du million. Et au lieu de continuer, j'ai décidé justement d'arrêter de faire plus de vidéos. Je me suis dit, je vois bien que mes vidéos, ils n'ont pas le message que je veux. Et j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, je vais profiter justement de cette mini-notoriété justement pour faire des films positifs. Et après, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à créer l'association, donc ça rentrait vraiment dans le projet.
Justement, tu as pris ton métier de vidéaste en quelque sorte en autodidaxie, justement.
Ouais, c'est ça. Ouais, totalement. J'étais tout seul à ce moment-là pour apprendre. J'ai eu des conseils. Enfin, je me suis intéressé j'ai commencé à regarder beaucoup de films. Je commençais vraiment à m'intéresser, en fait. De toute façon, quand on aime quelque chose, sans se rendre compte, on s'intéresse de plus. Enfin, on commence à connaître énormément de choses parce qu'on s'intéresse. Par exemple, moi, j'aimais le cinéma, donc forcément, quand je regardais des films, je regardais pas de la même façon qu'un pote, qu'un ami justement qui regardait ce même film-là. Donc moi, je regardais tout l'aspect du film, comment c'est filmé, pourquoi c'est filmé comme ça. Voilà, j'avais une autre vision justement de la chose. Donc voilà, j'étais vraiment obstiné justement pour apprendre à devenir réalisateur.
Et justement, t'as des réalisateurs qui t'ont un petit peu influencé dans tes choix de cadrage, de sujet, un petit peu dans la création de manière globale de tes vidéos?
Pas forcément, parce que quand je regarde un film, en fait, c'est bête à dire, mais je m'intéresse moins au réalisateur. Enfin, je m'intéresse vraiment au film, en fait. Je me dis, mais parce qu'en fait, un film, ce qu'il faut savoir, c'est que même si ça a été filmé d'une certaine façon, c'est toute l'équipe, en fait, du film qui contribue. C'est-à-dire qu'il y a le cadreur, il y a des personnes qui vont proposer, donc on sait jamais qui va proposer quoi. Et moi, quand je réalise un film, c'est souvent un pote qui va me dire « Tiens, pourquoi tu ne filmes pas ça de cette façon-là » Et c'est pour ça que moi, c'est important de dire qu'un film, c'est pas seulement le réalisateur, c'est toute l'équipe qui contribue. Donc certes, il y a l'influence du réalisateur, c'est son film à lui, donc forcément, il y a une certaine direction à suivre. Mais le film en lui-même, il correspond à toute l'équipe. Donc ouais, non, c'est dur. Après, moi, je suis beaucoup Christopher Nolan, qui a fait Batman, qui a fait Interstellar, que j'ai beaucoup aimé. Après, il y a les films comme Forrest Gump. Il y a aussi les films que j'adore aussi, c'est Cette vie et À la recherche du bonheur avec Will Smith. Voilà, moi, c'est des films qui me passionnent. Donc.
Et dans le futur, tu aimerais faire des concours, j'imagine, et de ta vie personnelle, tu aimerais plus t'ancrer dans le monde du cinéma?
Mon but plus tard, c'est de réaliser des films un peu plus, plus professionnels et puis destinés au cinéma, justement. Faire des longs métrages, des courts métrages, mais pour des concours. Un peu plus professionnel comme le Festival de Cannes, c'est un exemple, mais d'ici 2-3 ans, j'aimerais bien tenter justement ce genre de concours où c'est des vrais professionnels qui choisissent justement les films. Parce que pour l'instant, c'est des concours amateurs justement pour grimper petit à petit, mais notre objectif justement, c'est de devenir de plus en plus professionnel et de proposer des films de qualité. Donc ouais, mon but à moi, c'est de personnel, c'est de devenir réalisateur, mais aussi d'amener un peu mon équipe au même niveau que moi, en fait, tout simplement. De pas y aller tout seul, de ramener d'autres personnes, des amis, puis justement de leur prouver qu'on est capable de faire quelque chose et qu'on n'est pas forcément obligé d'être quelqu'un justement qui a fait des études ou dans ce domaine. Parce que moi, je stressais énormément parce que j'avais pas fait d'école de cinéma. Et donc, je me comparais énormément aux autres personnes qui avaient fait une école. Je me suis dit, bon, attends, lui, si cette personne n'a pas réussi, alors qu'elle a fait une école, je vois pas pourquoi je réussirais. Et justement, ça, c'est l'erreur que je faisais. Et c'est un peu l'expérience que j'aimerais partager plus tard avec des personnes. Donc, j'aimerais bien faire des conférences, ce genre de choses. Justement, pour montrer aux jeunes qu'il faut jamais se comparer. Il faut faire son projet, il faut se concentrer sur son projet et s'améliorer de jour en jour. Surtout bosser.
Et en deux mots, montrer que finalement, sans études, comme tu le disais, on peut réussir si on en a l'envie et si on en veut, finalement.
Bah, je dis pas que l'école m'a pas aidé du tout.
C'est un plus.
Voilà, c'est un plus parce que, enfin, par exemple, quand j'ai fait mes DUT, etc., j'ai quand même bossé à l'école, j'ai commencé à l'université. Même si j'ai pas de diplôme à l'université, j'ai quand même fait trois années différentes justement à l'université. Et ça m'a beaucoup aidé, mais je complexais beaucoup parce que j'avais pas fait les études de cinéma. Et je me suis dit, mais enfin, j'ai peut-être pas les mêmes armes que les autres, etc. Alors que pas du tout, en fait, de nos jours, on peut apprendre de tout ce qu'on veut sur Internet. Donc ouais, il faut bosser, puis surtout, il faut être curieux, il faut aller vers les bonnes personnes, il faut s'entourer aussi de bonnes personnes qui peuvent te conseiller.
Se construire en quelque sorte un réseau, même au niveau professionnel, dans le cinéma.
Ouais, totalement aussi, ouais. Bah, ça aide beaucoup le réseau, surtout de nos jours. Sans réseau, tu mets deux personnes, tu mets une personne très talentueuse qui a personne autour de lui, et tu mets une personne qui a moins de talent, mais qui a énormément de monde autour de lui, bah, forcément, c'est la personne qui a moins de talent qui va réussir parce qu'elle aura les armes pour la diffusion. Elle aura les contacts qu'il faut, etc. Alors que la personne qui n'a pas de talent, elle va se retrouver toute seule. Et c'est dommage parce que du coup, elle va se renfermer et puis elle va pas pouvoir exploiter son vrai talent. Donc, je trouve ça dommage. Mais en même temps, il faut savoir qu'aujourd'hui, il faut forcer les portes. Il faut pas avoir peur. Il faut, justement, on n'a rien à perdre. Donc, il faut foncer, il faut être, comment dire...
Persévérant
et puis aller vers les personnes. Ouais. Puis aller vers les personnes, ça c'est important. Enfin, être sociable aussi. Faire des soirées professionnelles. Enfin, je veux dire, il y a des meet-up, etc. qui sont créés justement pour ce genre de choses. Donc, il faut en profiter. Il ne faut pas rester dans son coin. Mais c'est très dur quand on est une personne très timide. Hein, donc, je compatis totalement. Mais il faut se forcer, il faut travailler dur pour se construire soi-même.
Très bien, puis on arrive au terme de cet entretien. Bilal, est-ce que tu aurais peut-être une page Facebook, une page YouTube à nous donner pour qu'on puisse retrouver ton travail ?
Alors, pour mes vidéos personnelles, donc j'ai ma page Facebook Bilal Belmadi, avec un H après le A. Et sinon, bah, après moi, j'ai Cité Créative, donc en deux mots, Cité et Créatif, pour l'association, donc pour les personnes qui veulent rejoindre l'association ou les personnes qui sont tout simplement intéressées pour voir les films. Voilà. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous êtes intéressé pour intégrer l'équipe. On est très accueillants.
Eh bien, merci Bilal d'être venu dans les studios.
Merci à toi, merci à vous.
Et bien, rendez-vous pour ton prochain festival en septembre.
C'était Cine News sur Radio Prévert 105.9. Et donc, la matinale touche bientôt à sa fin. Et pour terminer en beauté, nous allons attaquer une chronique « Le saviez-vous ?» avec toujours des anecdotes insolites. Mon Dieu, je ne sais plus parler. Allez, c'est parti. Le saviez-vous ? C'est maintenant sur votre fréquence. Nous sommes de retour pour des informations insolites. Et qui est encore de retour parmi nous ? C'est Ilana ! Ilana, de nous en une ?
Alors, pour commencer, saviez-vous, au Danemark, il est légal de brûler le drapeau danois, le Dannebrog. Cependant, il est illégal de brûler publiquement ou de profaner les drapeaux des pays étrangers, des Nations Unies et du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 110 du code pénal danois, car cela pourrait être interprété comme une menace et une atteinte à la dignité du peuple du pays en question. Selon la tradition danoise, l'acte de brûler est le bon moyen de se débarrasser d'un drapeau danois usé. Mais il faut veiller à ce que le drapeau ne touche jamais le sol.
C'est assez particulier quand même.
Oui, mais bon. C'est une façon de voir les choses.
C'est vrai qu'on est plutôt habitué, nous, au fait qu'il ne faut pas brûler son propre drapeau, en fait.
Dans tous les cas.
Donc c'est...
Ni celui des autres, mais bon.
Donc c'est assez original, en fait.
Oui.
Enfin bref. Donc maintenant, c'est à mon tour de vous en dire une. Connaissez-vous l'apothémnophilie ? Non ? Eh bien, il s'agit d'un trouble dans lequel les individus, en bonne santé, donc comme vous et moi, enfin peut-être, perçoivent un ou plusieurs de leurs membres ou organes comme étrangers au reste de leur corps et souhaitent les amputer. Oui, littéralement. La cause de l'apothémnophilie est inconnue. On ne sait toujours pas si ce trouble est neurologique, psychologique ou bien les deux. Ce trouble est rare et rarement étudié. Selon les scientifiques, il existe un déséquilibre entre l'image mentale du corps que l'individu atteint perçoit et le corps physique. Ce déséquilibre est caractérisé par un désir intense d'amputation d'un ou de plusieurs membres en bon état. La personne atteinte de l'apothémnophilie a parfois un sentiment d'excitation sexuelle lié au désir de perdre un membre. Chers auditeurs, est-ce que vous auriez...
Comment tu réagirais, toi, si ton copain te disait d'amputer la jambe?
Je réagirais mal, je pense. Et toi?
Je paniquerais, je pense.
Donc, chers auditeurs, dites-nous s'il a un désir soudain de vous amputer le bras ou la jambe ou autre chose. Vous êtes déjà venus. Parce que vraiment, on trouve ça assez...
particulier.
Oui, ce sera intéressant à savoir. Bon, à ton tour.
Saviez-vous, les pyramides de Gizeh ne seraient pas là sans les capacités de motivation de la bière? Et oui, dans l'Égypte antique, les ouvriers qui construisaient les pyramides étaient payés 5 litres de bière par jour. Pour certains, ça peut faire rêver, mais voilà. C'était une source de nutrition, de rafraîchissement et de récompense pour ce dur labeur. Ce qui est, ma foi, vrai, j'imagine, dans certains sens. Et en considérant que c'est l'équivalent de boire 10 pintes de bière tout en essayant de construire une telle merveille, ils ont fait un excellent travail. Cela dit, ils ont oublié les fenêtres, lol.
C'était une très bonne boutade. Je rigole.
Mais bon, payer à la bière, c'est un bon moyen de paiement.
J'imagine que ouais, ça fait rêver certains.
Je ne sais pas si vous, ça vous fait rêver, mais bon.
Pas moi, en tout cas.
Soit tu ne bois pas d'alcool.
Et oui, quand tu ne bois pas d'alcool, la bière, ouais, bof. Hein.
Bah, t'en sers pour arroser les plantes, quoi.
N'empêche, imaginez, ils étaient peut-être bourrés quand ils ont construit les pyramides.
Ça expliquerait les formes.
Bah, ouais, quand même, il y a une des 7 merveilles du monde qui a été créée avec des mecs bourrés.
Je vois pas où le problème.
Et nous allons donc terminer cette chronique, le saviez-vous ? Avec une anecdote par rapport à notre Tour Eiffel nationale. Alors, le saviez-vous ? Peu de gens le savent, mais prendre des photos de l'emblématique Tour Eiffel la nuit est illégal et passible d'une lourde amende. C'est tout simplement parce que la Tour Eiffel est sous copyright quand ses lumières scintillent dans le ciel nocturne. Des explications s'imposent. Le propriétaire du droit d'auteur et créateur de la Tour Eiffel est décédé en 1923. Alors, en 1993, l'image de la Tour Eiffel est entrée dans le domaine public. C'est pourquoi Las Vegas a sa propre Tour Eiffel, construite en 1999. Mais les lumières qui illuminent la Tour Eiffel la nuit n'ont été installées qu'en 1985. Et puisqu'elles sont considérées comme un travail artistique, elles sont bien dans leur période de protection de copyright. Cet éclairage est attaché à Tour Eiffel, et puisque les photos de la Tour Eiffel prises la nuit ne sont pas susceptibles d'être terriblement intéressantes sans lumière, il a été considéré que les photographies nocturnes de la Tour Eiffel sont une violation du droit d'auteur de l'artiste en droit français. La même chose s'applique pour le Louvre et la gare principale de Rome.
Je suis sûre que nombreuses personnes sont déjà dehors la loi.
Je suis absolument sûre qu'une personne dans nos auditeurs est un hors la loi.
Au moins une.
Si vous êtes un hors-la-loi, dites-le nous.
Comme ça, la police vous retrouvera.
Et oui, nous sommes une radio très charmante, avec de charmantes jeunes filles. Alors, nos informations viennent du site lesaviez-vous.net et nous vous remercions d'avoir écouté.
Merci beaucoup.
Merci à toi, Ilana.
Mais de rien.
Tu seras venue pas mal de fois aujourd'hui.
Beaucoup trop pour certaines personnes, j'imagine.
Je ne pense pas, ça rajoute un peu d'originalité.
C'était Le Saviez-vous sur Radio Prévert 105.9.
Et donc, la matinale s'achève.
Et oui, on va se retrouver nous la semaine prochaine avec un beau soleil peut-être. Là, je vois, les nuages sont là, il fait beau pour l'instant, pas trop d'orage aux alentours.
En tout cas, il fait chaud.
Ah, ça, je peux vous le confirmer, on a 28 dans les studios et c'est compliqué.
Mais ça ne nous empêche pas de faire la matinale.
Tout à fait. Donc la semaine prochaine, on vous souhaite donc un très bon mercredi après-midi, une très bonne fin de semaine, un très bon week-end. Et donc à la semaine prochaine sur les ondes de Radio Prévert 105.9 à Chalon.
Good morning, good morning, good morning. Good morning. Whoa, good morning, and good morning, Radio Prévert.